tout le monde doit participer à l'identification des risques psychosociaux. Le but, c'est d'offrir un milieu de travail qui soit stimulant, puis surtout reconnaissant aussi. Donc, je vous dirais, pour répondre à votre question, que les enjeux de santé psychologique, je pense qu'ils doivent demeurer prioritaires là, pour les organisations. Nos travailleurs et travailleuses, ben, c'est la ressource la plus importante des entreprises, donc il faut vraiment en prendre soin.
Chaque année, l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Merci d'écouter le balado Les Remarquables de l'Université Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique, et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Manuel Houdard, lauréat du prix Grand Diplômé 2024. Avant de commencer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son riche parcours. Diplômé au baccalauréat et à la maîtrise en droit de l'Université Laval, Manuel Houdard est présidente-directrice générale de la CNESST. Au sein de la fonction publique québécoise, elle a contribué à de nombreuses réformes majeures, dont celles entourant la loi sur l'équité salariale, le régime d'assurance parentale et la Charte québécoise des droits et libertés. Reconnue pour son leadership rassembleur et bienveillant, Mme Houdard a reçu plusieurs prix et distinctions au cours de sa carrière. Nommée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada en 2017 par le réseau des femmes exécutives WXN, elle a reçu en 2023 le prix Femme de mérite de la YWCA Montréal et le prix Dirigeant de l'année lors du gala RH de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Et, question d'en ajouter encore un peu plus, l'organisation qu'elle dirige a reçu le prix des Nations Unies pour la fonction publique en 2022. Manuel Houdard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Sirois.
C'est un immense plaisir de vous recevoir. D'abord, permettez-moi de vous féliciter. Vous êtes lauréat du prix Grand Diplômé de l'Université Laval 2024. Qu'est-ce que cela vous fait de recevoir ce prix?
D'abord, merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur. Puis je vous dirais, je suis vraiment émue. Émue parce que, d'abord, je remercie l'Université Laval. Je la remercie profondément. L'Université Laval, c'est plus que mon alma mater. C'est en fait la raison première de mon immigration, de l'immigration de la famille Houdard ici dans la ville de Québec quand j'étais adolescente. C'est le choix d'immigrer ici dans cette belle ville. Donc, c'est une grande histoire d'amour entre l'Université Laval aujourd'hui, une histoire qui dure encore. Mmh. C'est un choix que mes parents ont fait à l'époque quand leur fille était adolescente de quitter le pays d'origine pour venir ici dans la ville de Québec, mais le choix, c'était plus particulièrement pour que leur fille aille à l'université. Donc, beau cadeau de la vie de mes parents, beau cadeau aussi que l'Université Laval me fait. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, la première fois que j'ai mis les pieds sur le campus. J'avais en visite, j'avais 14 ans, je suis devant le pavillon de Coninck. Puis imaginez, 4 ans plus tard, je suis inscrite à la faculté de droit de l'Université Laval. Donc, pour moi, c'est une immense fierté d'être diplômée de la première université francophone en Amérique. D'ailleurs, l'université, c'est la toute première université francophone à voir le jour en Amérique. Hein? On l'oublie parfois, mais puis encore aujourd'hui, ben, continue d'être à la mode. Hein? Réponse aux attentes de la société par son enseignement, sa recherche. Bref, moi, je suis très, très émue et fière aujourd'hui, là, M. Sirois.
Ah, très bien. Ben, c'est une belle histoire. Merci de nous l'avoir partagée, Mme Houdard. La Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, a été créée en 2016. Vous en êtes la dirigeante depuis sa création. Parlez-nous d'abord du rôle et de la mission de l'organisme.
Oui, bien sûr. Donc, la Commission, c'est une des grandes organisations ici du secteur public québécois. C'est 5000 personnes qui travaillent au quotidien. On rend des services à près de 260 000 employeurs, en fait tous les employeurs du Québec, les 4 millions aussi de travailleuses et travailleurs, et je dirais dans toutes les régions du Québec. Dans le fond, la commission est présente partout, on touche tous les services en matière de travail, santé, sécurité du travail, mais aussi les normes du travail, tout ce qui est conditions de travail, et aussi l'équité salariale. Moi, j'ai été nommée en 2015. Vous savez, c'est une toute jeune organisation, hein, la CNESST. Oui, oui. Moi, j'ai été nommée par le Conseil des ministres à l'automne 2015 pour mettre en œuvre la porte d'entrée unique en matière de travail. Puis, malgré son tout jeune âge, vous l'avez mentionné tantôt, la commission, là, c'est lettre de noblesse, le prix de l'ONU, mais le prix aussi de l'Institut d'administration publique du Québec. Donc, avec des équipes qui sont bien motivées, je vous dirais, un caractère unique de la commission par son caractère paritaire aussi. Elle regroupe des grandes centrales patronales syndicales au sein du conseil d'administration, puis au sein de la commission, dans le fond, des équipes mobilisées pour rendre ses services à la population. Une présidente de conseil d'administration aussi, juge internationale, Louise Otis, aussi qui dirige le conseil d'administration. Donc, une organisation bien impliquée dans sa communauté, mais pour la collectivité aussi, pour toute la société québécoise.
Absolument. Je l'ai mentionné en introduction, mais j'aimerais revenir sur le prix des Nations Unies qu'a reçu la CNESST en 2022. Ce prix est en lien avec la loi sur l'équité salariale qui est en vigueur au Québec depuis 1996. Qu'est-ce qui fait que la CNESST est un exemple à suivre dans le monde en matière d'équité salariale?
Je vous dirais, qu'est-ce qui fait que le Québec est un exemple dans le monde? Parce que, dans le fond, l'ONU a remis en 2022 le prix pour le service public. En fait, il faut savoir que chaque année, le 23 juin de chaque année, l'ONU reconnaît un État, une nation pour son service public, dans le fond, à travers plusieurs nations, États dans le monde. Cette année, en fait, en 2022, on a été ramassé le prix, d'ailleurs, au siège social des Nations Unies, tout récemment, en octobre 2023. Donc, c'est la Commission qui a remporté ce prix, une grande reconnaissance internationale. Pourquoi? En fait, c'est pour tout ce qui a été fait par la Commission en matière d'équité salariale. Et c'est pour ça que je dis le prix, on le partage avec tout le Québec, parce que c'est tout ce que le Québec a fait en matière d'équité salariale. Oui, les équipes de la Commission, ils rayonnent par leur professionnalisme, leur expertise qu'ils mettent au profit de la société, mais le prix aussi vient concrétiser l'engagement de toute la fonction publique québécoise. Donc, c'est un prix prestigieux qui met en évidence justement la proactivité de la fonction publique du Québec, le dynamisme aussi au profit des milieux de travail. Puis, c'est certain que c'est un prix qui reconnaît aussi ce que le Québec a fait en matière d'équité salariale par l'introduction non seulement de la loi sur l'équité salariale dont vous avez parlé, M. Sirois, mais aussi par, je le dis souvent, les lois au Québec. Ils évoluent d'une façon formidable. C'est qu'on fait avancer la législation, mais par le dialogue social, par les discussions, par l'évolution aussi des différentes lois pour se coller justement et pour faire évoluer à la fois les valeurs et les mentalités. Donc, c'est un bel exemple et je vous dirais, c'est un exemple dont les autres pays viennent s'inspirer. On a reçu des délégations de d'autres pays qui sont venus nous demander comment on avait fait aussi au Québec. Bravo. Moi, je suis très, très fière de ce qui se fait ici au Québec. Puis, il faut saluer le travail exceptionnel de toutes les personnes qui ont non seulement mis en œuvre cette loi-là, mais continué aussi à accompagner les milieux de travail. Et aujourd'hui, dans le fond, on se trouve à avoir des écarts salariaux les plus faibles, beaucoup plus faibles que ce qu'il y a aux États-Unis, en Europe, même dans les autres provinces canadiennes. Donc, il faut être très, très fier de ce qui se fait au Québec. Oui, il y a encore du chemin à faire, hein, Monsieur Sirois, ça, on s'entend là-dessus, mais regardons les acquis, regardons dans le rétroviseur, puis soyons très fiers de ce que le Québec a fait comme avancée.
Certainement. Le développement durable est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations également, tant à l'échelle de nos organisations qu'à l'échelle de la société de manière plus large. Comment intégrez-vous, en tant que dirigeant de la CNESST, le développement durable, donc les dimensions environnementales, sociales, économiques, dans vos décisions et dans la vision de l'organisation?
C'est une importante question, puis c'est une question de vision d'avenir aussi. Pour nous, c'est au cœur de la vision de la CNESST. au sens large, hein, développement durable, vous mm-hmm. parlez pas juste d'environnement et d'écologie, mais de tout ce qui assure la santé, la sécurité, le bien-être, tout ce qui est prioritaire. En fait, quand on s'attarde plus spécifiquement aux 17 principes de développement durable de l'ONU, puis je suis très contente parce que je fais le lien aussi avec la vision puis les engagements de l'Université Laval qui sont collés aussi sur les 17 principes là, de développement durable de l'ONU. Nous, on est aussi vraiment adapté là, sur ces 17 principes. On vient d'ailleurs d'adopter notre plan de développement durable là, qui s'échelonne même jusqu'à l'année 2027. C'est très fort aussi dans les valeurs de nos 5000 employés, pas juste pour la haute direction, mais les valeurs de nos employés aussi là, sont mm-hmm. très ancrées, développement durable. Le but, c'est non seulement, comme je le mentionnais, d'accompagner le milieu de travail dans la transition climatique, mais aussi de permettre une grande transformation là, de nos façons de faire en matière de développement durable. Puis de se coller, comme je le disais tantôt, plus spécifiquement là, aux principes de l'ONU. Vous le savez que ces principes qui sont mondiaux, ça vise à vraiment éradiquer la pauvreté, éradiquer les inégalités, lutter contre les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, cheminer vers la paix, la justice sociale. Donc, tous ces objectifs-là, les 17 objectifs de l'ONU, ils sont vraiment interconnectés et ça répond à la mission de la Commission aussi. Nous, on s'intègre très bien là-dedans dans ce qu'on fait aussi pour des conditions justes de travail, des milieux de travail en santé aussi également. On travaille aussi sur des objectifs de travail décents, mm-hmm. l'égalité des genres aussi et la réduction des inégalités. Ça fait partie aussi des fondements de ce qui se trouve dans nos lois, plus spécifiquement la loi sur l'équité salariale aussi. Puis, tout le pouvoir du renforcement des femmes et des jeunes filles aussi, non? Donc par l'éducation aussi également. Donc, on est vraiment une organisation qui est proactive là, dans tous ces indices-là non? et ces indicateurs en matière de développement durable. Puis nous, ben, on dit qu'on fait partie de l'évolution aussi des changements pour la société.
Et justement, est-ce que vous avez des exemples concrets de mesures qui ont été prises par la CNSST en matière de développement durable?
Tout à fait. Écoutez, on en a beaucoup au niveau écologique aussi. On favorise, par exemple, le transport en commun. On a gagné un prix sur les défis sans auto. Donc, tout ce qui est écologie, environnement, on est dans un éco-quartier, notre siège social aussi. On vient de recevoir la certification LEED aussi. Donc, très, très axé sur l'écologie. Mais je le disais aussi tantôt, c'est des mesures en matière d'égalité des chances. Donc, je vais aller toucher dans ma réponse là, tout ce qui est relatif à l'équité, la diversité, l'inclusion. Mm-hmm. On vient d'adopter une stratégie à ce sujet-là. On a des stratégies jeunesse aussi sur lesquelles on s'attarde plus particulièrement là, aux clientèles jeunes, aux clientèles travailleurs étrangers temporaires aussi. Puis nous, le but, là, c'est vraiment de créer aussi des milieux de travail non sexistes, soutenir les femmes dans le développement de leurs compétences, offrir des modèles aussi de métiers non traditionnels, revoir les pratiques de recrutement. Donc, tout ce qui peut être mis en place pour viser l'égalité des chances aussi de tous. Puis, contribuer à la santé, non seulement physique, mais psychologique aussi du personnel. Donc, comme vous le voyez là, dans ma réponse, on a des mesures qui sont ouvertes vers l'externe, vers les milieux de travail, c'est notre mission, mais aussi comme employeur de 5000 personnes, on se dit qu'il faut aussi prendre des mesures, des modèles, hein, être exemplaires aussi pour le développement professionnel de nos employés, leur santé psychologique, leur épanouissement, puis surtout la reconnaissance aussi de leur apport pour l'amélioration des milieux de travail. Je suis très, très fière là, des 5000 employés qui composent la commission, puis je dis souvent qu'ils sont un modèle pour moi au quotidien d'ailleurs, une grande source d'inspiration pour moi. Là.
Madame Houdard, nous avons parlé d'équité salariale, de développement durable. J'aimerais maintenant que l'on parle de ce qui s'en vient. Quels sont les enjeux sur lesquels nos entreprises, nos organisations devront se pencher au cours des prochaines années en matière de conditions et d'environnement de travail?
Ouais, une question qui est très importante aussi. Je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, les enjeux de santé psychologique. Je vous dirais, moi, je trouve qu'en ce moment, tout ce qui est promotion, protection de la santé psychologique, c'est vraiment prioritaire. On dit souvent les employés, nos employés, c'est la ressource la plus importante d'une organisation. C'est pareil à l'Université Laval, c'est pareil à la commission, ça devrait être pareil dans tous les milieux de travail. Là, en ce moment, là, on est dans une transition vers, on parle souvent d'une quatrième révolution industrielle. Ben, ça s'accompagne d'un constat quand même qui est inquiétant, là, au niveau de la santé psychologique. D'ailleurs, je pense qu'il y a une étude, là, de l'Université Laval, qui est très récente, les résultats d'une enquête qui a été menée par la chaire de recherche Relief en santé mentale, dont j'ai pris connaissance, qui dit que 49% des employés des PME au Canada vivraient avec au moins une difficulté de santé mentale ou de dépendance auto-rapportée.
Donc, c'est énorme, c'est énorme.
C'est beaucoup, c'est beaucoup. Puis on voit, je pense que c'est sûr qu'on est dans une période post-pandémie. On va connaître des changements au cours des prochaines années. On peut penser à la pénurie de main-d'œuvre. J'ai parlé tantôt de la transition là, au niveau climatique, mais tout l'avènement du télétravail, le vieillissement de la population. Alors, tous ces facteurs-là, c'est pointé par les experts pour dire que il faut faire attention. C'est des constats qui font en sorte que ça puisse augmenter, en fait, les risques psychosociaux. Puis, j'insiste parce que chez les plus jeunes aussi, justement, dans cette étude-là, on constatait qu'ils étaient plus nombreux, les jeunes de 18 à 24 ans, à ressentir des symptômes d'insomnie, d'anxiété ou de dépression. Et c'est important que les milieux de travail, c'est là que je reviens à notre rôle, ben on participe, tout le monde doit participer à l'identification des risques psychosociaux pour en parler ensemble, viser à les corriger aussi, mettre en place, par exemple, des politiques de prévention, des programmes d'aide aux employés, des ateliers d'autogestion. En fait, le but, c'est d'offrir un milieu de travail qui soit stimulant, puis surtout reconnaissant aussi. Donc, je vous dirais, pour répondre à votre question, que les enjeux de santé psychologique, je pense qu'ils doivent demeurer prioritaires là, pour les organisations. Nos travailleurs et travailleuses, ben, c'est la ressource la plus importante des entreprises, donc il faut vraiment en prendre soin.
Absolument. En terminant, quand vous repensez à vos études à l'Université Laval, Mme Houdard, comment votre formation à la faculté de droit a-t-elle eu un impact sur votre vie et sur la carrière que vous menez?
Ah, je vous dirais que moi, tous les enseignements que j'ai reçus à l'Université Laval, plus particulièrement à la faculté de droit, ben, ça m'a permis d'exercer les fonctions que j'exerce aujourd'hui, que j'ai exercées dans toute ma carrière, des fonctions dont j'ignorais même l'existence en tant qu'adolescente. Puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon choix s'est porté sur l'Université Laval bien avant que j'habite au Québec. Je voyais l'Université Laval même avant que j'habite ici, dans la ville de Québec. Puis, c'est un chemin qui m'a amené là. Et je vous dirais que les enseignements que j'ai reçus à la faculté, ça m'a très bien préparé ensuite pour exercer ce que je fais dans ma vie professionnelle. C'est très varié, à l'université, J'ai eu des cours de droit international, de droit des affaires, de droit autochtone, de droit administratif, droit constitutionnel, droit et liberté de la personne, de bioéthique, de droit civil. Tout était intéressant parce que les profs étaient tous excellents. L'Université Laval, elle a des excellents professeurs, d'excellents professeurs de droit dans toutes les matières. Leur passion était contagieuse. Puis encore aujourd'hui, je pense souvent à eux. Les gens qui m'entourent, ils pourraient vous le dire. Des fois, je cite des enseignements que j'ai reçus à l'université qui s'appliquent encore aujourd'hui. Donc, toutes les cours de la faculté de droit, ça nous prépare au monde du travail et ça nous prépare aussi à continuer à y exercer, comprendre les contours, les enjeux. Moi, j'ai travaillé dans plein de matières. J'ai eu la chance, dans presque toute ma carrière, d'être dans la fonction publique. Tous les dossiers sont passionnants aussi, les équipes sont motivantes. Puis, grâce à tout ce que j'ai appris aussi à l'université, j'ai pu participer à des réformes législatives en rédaction de lois, des fonctions aussi qui m'ont amené à gérer des grandes équipes de travail. Puis aujourd'hui, je trouve que tous les enseignements aussi que j'ai reçus, ça m'a permis aussi de faire ce que j'ai pu faire par la suite aussi. Donc, J'ai énormément de gratitude envers l'Université Laval, mais aussi envers la faculté de droit parce que c'est un bagage important que j'ai reçu. On s'en rend compte lors du bac, lors de la maîtrise aussi, mais on s'en rend compte aussi à tous les jours et qui suivent dans les années aussi, par la suite, les années qui ont suivi. Ben, je m'en rends compte à tous les jours. Moi, ça m'a imprégné pour la vie. Puis, mon Dieu, merci à la faculté et merci à l'université parce que, je le disais aussi tantôt, c'est une université la plus ancienne en Amérique, l'université francophone la plus ancienne, mais c'est une université qui est encore si moderne aujourd'hui, ouverte sur le monde, engagée dans son milieu. Puis, on a parlé de développement durable à l'Université Laval qui s'investit en développement durable. Et je trouve que l'université rayonne aussi sur la scène québécoise, canadienne, puis la scène mondiale aussi. Donc, merci parce que non seulement c'était les enseignements que j'ai reçus aussi du temps de mon plus jeune âge, mais c'est des enseignements qui m'ont marqué pour toute ma vie puis qui continuent aussi à évoluer en moi puis à nous garder tous comme membres de la société québécoise interconnectés. Alors voilà, Monsieur Sirois, ce que je peux vous dire sur mes années d'études, mais aussi sur ce que ça m'a aussi donné comme bagage, puis ce sur quoi ça m'a imprégné aussi pour toutes les années qui ont suivi mes années d'études aussi.
Madame Houdard, merci infiniment du temps que vous m'avez consacré aujourd'hui. Vous avez contribué à plusieurs changements positifs pour les travailleuses et travailleurs du Québec, et ce n'est pas terminé. Je vous souhaite encore beaucoup de belles et de grandes réalisations.
Merci beaucoup, Monsieur Sirois, et merci à nouveau pour cet honneur que me fait l'Université Laval aujourd'hui. Très, très fière et émue de cela. Merci.
Merci, Madame Houdard. Cet entretien avec Manuelle Houdard, lauréate du prix Grand Diplômé, a été réalisé le 22 janvier 2024 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.